الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ الإسلام نغمسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous asseoir quelques instants pour la salat al-Isha. Donc pour essayer d'apprendre un petit peu plus sur nos aqidah, sur nos croyances et les croyances concernant la fin des temps, concernant les ashrat al-sa'a, les signes de qiyama. Et maintenant, on a rappelé l'importance de connaître les signes de qiyama parce que ce sont des événements qui vont avoir lieu, on pourrait dire parfois à la fin des temps, mais parfois ça peut être à une époque intermédiaire, comme c'est le cas ou comme c'était le cas pour les petits signes de qiyama. Et face à ces situations, ceux qui ont la foi en Allah, la foi sur le prophète alayhi salatu wassalam, et qui ont un minimum de connaissances religieuses, ces personnes-là, bi'idhnillah, pourront voir les signes d'Allah azza wa jal à travers les changements qui vont avoir lieu de la création. Ça peut être des changements par rapport au fonctionnement de la terre, au fonctionnement de la sunnatullah de la terre. Ça peut être des changements par rapport au mode de vie des gens. Et parfois, il peut y avoir un caractère de péché ou ne pas avoir un caractère de péché, comme c'est le cas des personnes qui vont construire des immeubles et ainsi de suite. Ça n'a aucun, il n'y a aucun mal, ce n'est pas un péché, mais ça fait partie des changements dans le mode de vie des gens. Maintenant, les changements les plus graves, ce sont les changements en rapport avec le akhlaq et le dîn des gens, avec le comportement et avec la pratique religieuse des personnes. Et quand on parle de changement par rapport à la pratique religieuse des personnes, c'est par rapport à une dépravation des mœurs, c'est-à-dire une décadence dans le bon comportement, une décadence dans l'éthique du croyant, dans tout ce qui fait la bienséance de l'être humain, quelles que soient les cultures, quelles que soient les civilisations. Et parmi les petits signes de Qiyam, on avait vu le fait qu'il n'y aura plus de pudeur à la fin des temps, le fait que les personnes, les gens auront recours à l'intérêt en le considérant comme étant quelque chose de licite. L'alcool sera consommé, Wallah Musta'an, pas mal de péchés, on avait vu plus ou moins concernant le mariage, les relations entre l'homme et la femme et ainsi de suite. L'homosexualité, ça fait partie des petits signes de Qiyam. Donc, ces signes-là, ceux qui n'ont pas la foi, ils le perçoivent comme une évolution des mentalités basses. Ou alors, des personnes qui vont se libérer un petit peu des chaînes des religions, des chaînes des contraintes. Maintenant, celui qui a iman dans son cœur, il sait que c'est ces changements qu'il y a de le comportement, de la relation avec Dieu, de la relation avec Allah Azza wa Jal, ce sont les signes annonciateurs de la fin des temps. Donc ça, c'est les petits signes de Qiyama. Maintenant, concernant les grands signes de Qiyama, subhanallah, une personne nous avait interpellé il y a quelques jours, on va essayer de rester dans le sujet aujourd'hui, Inch'Allah, il y a quelques jours concernant un événement, d'accord, que bon, il n'y a pas besoin de parler d'actualité, mais certains mouvements, d'accord, un petit peu parasitaires qu'il y a dans le monde musulman, en nous disant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les personnes qui vont accueillir Imam Mehdi et ainsi de suite? Est-ce que c'est vraiment peut-être Imam Mehdi parmi eux? Quand on voit certains mouvements qui bougent un petit peu et qui bougent énormément et qui font parfois un peu n'importe quoi. La réponse est claire. Les savants ont été questionnés maintes et maintes fois à propos de l'Antéchrist et à propos de Al-Mehdi. Parce que ce sont deux sujets qui préoccupent beaucoup les gens. Qui préoccupe les gens qui sont attachés à la religion parce qu'ils voient que le monde musulman connaît une situation vraiment calamiteuse et on attend tous un sauveur. Mais concernant Dajjal, il y a beaucoup de gens qui l'attendent, bon, dans certains buts, et beaucoup de gens, ils sont un peu dans ce siècle vicieux des Illuminati, ils voient le mal partout, ils voient le signe du diable dans tout ce qui bouge. Donc ces personnes sont un petit peu obsédées aussi par Dajjal. Et ils finissent parfois par penser que peut-être que ces signes sont déjà apparus, que l'Antéchrist est déjà là peut-être, ou que Imam Mehdi c'est telle personne. Les savants, rahimahumullah, à toute époque, lorsqu'ils étaient interrogés à propos de ces deux grands signes, parce que là on parle de grands signes de Qiyama, ils disaient que pensez-vous qu'Allah Azza wa Jal va faire apparaître deux signes qui vont précipiter la fin du monde de façon aussi anodin, telle sorte qu'il y a des gens qui vont s'en rendre compte et d'autres personnes qui vont complètement passer à côté. C'est impossible. Parce que quand on parle des Ashrat al Kubra, des grands signes de Qiyama, c'est-à-dire ce sont les derniers grands signes annonciateurs du Qiyama. Ce sont des événements qui vont avoir lieu à l'aniyah, de manière très claire, sur lequel il n'y aura aucune divergence. Donc, il ne faut pas chercher le Mehdi. Quand le Mehdi apparaîtra, ce sera quelque chose de clair. Il y aura une descendance
venant de notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il y aura une manière d'agir qui ne sera pas la manière d'agir des oppresseurs. Ce n'est pas quelqu'un qui fera couler le sang, subhanallah, zulman, de façon abusive, là wallah, sera quelqu'un de profondément juste. Donc tout ça, c'est le fait de connaître les signes de Qiyama, c'est pour renforcer notre iman, c'est pour le ilm d'une manière générale, c'est pour bien comprendre, avoir une lecture saine et correcte des choses, mais c'est également pour faire la distinction entre ce qui fait partie du din et ce qui ne fait pas partie du din. Il y a une époque, je crois que c'est en 1980, il y avait une personne qui est toujours vivante d'ailleurs, qui a essayé, qui s'est proclamé le Mahdi et qui a pris en otage des gens de Haram à Mecca. On a entendu parler. Il paraît, on me confirmera que Marhoum Haji Moussa Ravat faisait partie des gens qui étaient coincés dans le Haram Sharif à Mecca. On a entendu parler des gens qui ont mis des armes dans les kafans, hein, dans les linceuls, d'accord, les janazas, et à Mecca ils ont fait rentrer des armes, ils ont pris le contrôle des tours des minarets de Mecca et ainsi de suite. Bref, fitna. Alors que dans le haram, pas le droit de faire couler une goutte de sang, même le goutte de sang d'un animal. Donc c'est des gens qui se sont proclamés Mehdi et qui pensaient qu'en faisant un coup aussi médiatique, ils allaient peut-être attirer l'attention de la Ummah et devenir eux-mêmes vraiment les sauveurs de l'humanité. Et on a vu qu'est-ce que ça a donné. Donc ils ont tué des gens, Allah Musta'an, et c'est, on pourrait dire, parmi les plus grands zalims qu'il y a à cette époque, d'avoir fait couler le sang dans le haram à Mecca. Donc, même par rapport aux événements, à ces événements qu'on entend dans certaines parties du monde, on n'a pas à se dire, on n'a pas à aller chercher, est-ce que c'est eux le Mahdi? Quand Al-Mahdi va apparaître, ce sera quelque chose de clair. Il y aura un bay'a. Il y aura un bay'a qui aura lieu où? À Mecca tul Mukarrama. Vous vous rappelez de ça? Ça remonte un peu à un an et demi. Un bay'a qui sera fait à Mecca sur le mataf. Ce sera des choses qui seront sues, qui seront connues, subhanallah. Et chaque personne qui a l'amour pour Allah et son prophète de son cœur, il saura intimement que ce seront là les grands signes d'Allah Azza wa Jal qui sont en train de se concrétiser. Donc voilà, ça c'était une petite introduction pour nous rappeler l'importance de connaître les signes de Qiyama, sachant que nous sommes la Ummah qui sera, on pourrait dire en guillemets, sanctionnée par la fin des temps et qui sera sanctionnée par la venue de l'Antichrist. Chose qui était craint par tous les prophètes, alayhim salatu wassalam, et c'est dans notre ummah. C'est pour ça aussi que c'est une ummah, une communauté qui est aimée par Allah Azza wa Jal, parce que c'est une communauté qui va être beaucoup éprouvée. Regardez les cycles de foi. Là, on va voir les derniers points, vous savez, les signes qu'on va voir dans un instant, c'est des signes parfois qui nous interpellent, d'accord? C'est des choses qui nous tiennent à cœur. Le Coran, la Kaaba, la pierre noire, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Ça fait partie des sha'a'ir de notre dîn. Et savoir que tout ça va disparaître à un moment donné, on est un peu interpellé, un peu choqué. Comment est-ce possible? Ce sont des choses auxquelles nous tenons et qui sont chères pour Allah Azza wa Jal. Mais il est nécessaire de voir les différentes étapes dans le dîn. Le prophète alayhi salatu wassalam commence sa prêche, il est tout seul. Lorsqu'il a 40 ans, il reçoit le wahi, il invite les gens vers l'islam et il y a quelques personnes qui acceptent. Khadija, Abu Bakr as-Siddiq, Ali radiallahu ajma'in, et ainsi de suite. Un petit groupe de sahaba. Ensuite, il y a les périodes de difficulté à Mecca. Ensuite, à Madina, il y a un peu plus de facilité. Il y a, mashallah, les tribus de subhanallah, comment s'appelaient les deux tribus de Madina? Les Aws et les Khazraj qui accueillent le prophète Ali salat wa salam. Il y a des tribus entières qui se convertissent à l'islam. D'où le verset, Idha ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. En masse, en quantité. Lorsque tu vois les gens entrer dans le dîn, en quantité. Ça, c'était jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le décès du prophète alayhi salatu wa sallam, il y a un petit moment de flottement, mais alhamdulillah, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu reprend en main les rênes de la Ummah et la Ummah va continuer à augmenter. Et il n'y a jamais eu, bi-idhnillah, bi-fadlillahi ta'ala, il n'y a jamais eu une époque où le nombre de croyants a diminué. Jamais eu dans l'histoire de l'islam. Dans l'histoire de la Ummah, il n'y a jamais eu une période où il y avait moins de croyants que l'année d'avant. Ça c'est dinullah. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam fait la promesse en sortant de Taïf, on avait dit ça la dernière fois, que ce din va aller dans toutes les régions du monde. Ça c'est wa'adullah, la promesse d'Allah azza wa jal. De la même façon, paradoxalement, il n'y a jamais une religion qui a été aussi combattue que l'islam. Tant par les armes, ou alors par les fikras, par rapport aux idées. On appelle ça ghazw fikri. Mais malgré ça, subhanallah, yuriduna yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. De le Coran, Allah Rabbul Izza annonce qu'ils vont essayer de, d'atténuer la lumière d'Allah Azza wa Jal, mais Allah fait la promesse que sa lumière elle va perdurer. Jamais un dîn n'a été aussi attaqué, une religion n'a été aussi attaquée que l'islam, mais Allah Rabbul Izza protège le dîn. Donc voilà, le dîn continue bi'idhnillah à augmenter. Maintenant viendra la période avant Al-Mahdi. Ce sera la période la plus noire de la Ummah, où il y aura le plus de fitna, où il y aura le plus de difficultés à pratiquer la religion, jusqu'à ce qu'on a vu dans certains textes, que lorsque quelqu'un va affirmer sa foi, la personne risque sa vie. Il y aura donc des génocides quand quelqu'un affirme sa foi. C'est-à-dire, là, ce que nous voyons comme quelques difficultés qu'il y a, c'est encore rien. La situation n'est pas encore prête pour que l'imam Mahdi intervienne. Et Allah seul sait quand est-ce que cette période devra avoir lieu. Et Inch'Allah, nous ne verrons jamais cette époque, jamais cette période. Donc, à un moment où il y aura de grandes difficultés, mais il n'est pas dit qu'à ce moment-là, il y aura moins de croyants. La wallah. Mais les croyants vont connaître des situations terribles. À ce moment-là, Allah Rabbul Izzah envoie le Mahdi et la Nusrat d'Allah vient. Ensuite, si on avait un histogramme, on montrait. Ensuite, intervient l'antéchrist, intervient Dajjal. Et là, l'avancée de Mahdi, malgré la présence de Mahdi, les musulmans connaissent des situations de difficulté. Excusez-moi, de difficulté. Et là, Dajjal, lorsqu'il est en pleine lutte contre Al-Mahdi, Allah Rabbul Izzah envoie Isa alayhi salam. Mais à aucun moment il est dit que le nombre de musulmans va diminuer. Bien au contraire, ces personnes qui vont vivre les périodes de fitna, ce seront les gens les plus aimés, les plus comblés parce qu'ils connaissent des situations difficiles. Et lorsque Isa alayhi salam prend le relais dans ce moment magnifique, historique, hein, c'est presque comme si qu'on pourrait en faire un tableau. Lorsqu'il descend, il prend le relais avec Al-Mahdi et il passe sa main bénie sur les joues des personnes qui auront lutté, qui auront été avec Al-Mahdi, et il leur annonce le grade qu'Allah Rabbul Izzah leur a réservé de le Jannah. Et on dit que les meilleurs parmi les croyants à cette époque, ils seront au charme de ces endroits, même pas de les haramènes, mais ce seront les gens qui seront à cet endroit, en train de lutter contre eux, Ad-Dajjal, en train de lutter contre l'antéchrist. Même de ces périodes de difficulté, le nombre de croyants ne diminue pas. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre Quraysh, c'est-à-dire les Quraysh à l'époque où ils n'étaient pas encore dans l'islam, vous pouvez mettre les Mongols, on peut mettre les périodes des Qaramita, les périodes les plus difficiles de l'histoire de l'islam, jamais le nombre de croyants ne diminue bi-idhnillah ou bi-fadlillahi ta'ala. Même lorsqu'il y a Juj ou Ma'juj, même quand il y a Dajjal, quels que soient les signes, le nombre de croyants reste, soit il reste stable ou il continue bi-idhnillah à augmenter. Maintenant, à un moment donné, lorsqu'Allah Azza wa Jal a décidé que l'ensemble de ces signes qu'on a déjà bi-idhnillah plus ou moins expliqués et détaillés doivent prendre fin, le monde, c'est Ashraf As-Sa'a, les signes de la fin des temps. Maintenant, la fin des temps doit avoir lieu. Mais là, quand on parle de fin des temps, c'est une destruction, c'est une extermination. Voilà, chercher un terme, c'est une extermination. Et Allah Azza wa Jal n'extermine pas la Ummah. Allah Azza wa Jal ne laisse pas non plus les a'da, les ennemis, prendre le dessus sur la Ummah. Ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que lorsqu'il y a l'extermination, Allah Azza wa Jal reprend la Ummah. Et quelle Ummah est reprise ? Ummatul Istijab. La Ummah est divisée en deux parties. Ummatul Da'wa, Ummatul Istijab. Ummatul Istijab, ce sont ceux qui ont accepté, qui font partie de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, mais qui ont accepté la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et Ummatul Da'wa, et cette façon de, ça c'est les ulama de Da'wa, c'est magnifique. Quand on parle de Ummatul Da'wa, c'est la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, mais ceux qui n'ont pas accepté la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ce qui veut dire que ce sont les personnes vers lesquelles nous devons faire la da'wa. C'est pas les exclus, c'est pas les gens qui s'appellent Jahannam, s'appellent Bouddha, je sais pas, s'appellent Kafoula, non, ça c'est Ummat da'wa. Yahi, ces gens là tu dois amener avec toi dans le Jannah. C'est exactement comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam invite Abu Jahl, invite Abu Lahab de le din, invite les gens qui n'ont pas iman de leur cœur à passer sa vie à inviter les gens vers le din. Ça c'est Ummat da'wa, c'est les gens qui ont besoin. C'est comme de la zakat, on s'éloigne, hein. C'est comme de la zakat, il y a ceux qui ont les moyens et il y a ceux qui méritent. Est-ce qu'on va dire que ceux qui méritent, ça c'est des pauvres, hein, on ne va pas perdre notre temps avec eux? Là, Yahri, ils ont besoin de toi, mais toi aussi tu as besoin d'eux. Parce que par le biais de ces personnes qui sont masakin, qui sont démunis, tu pourras accomplir ce ibadah qui est ada ou zakat. mais par l'existence de ces personnes qui n'ont pas la foi, tu as la possibilité de t'illustrer en tant que khair umma. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Personne qui ordonne le bien, qui interdise le mal, qui invite vers Allah Azza wa Jal. Donc, à un moment donné, Allah Azza wa Jal reprend la umma. C'est-à-dire que ça, c'est l'époque après Isa alayhi salam. Mais dans ces différentes phases, il y a des moments où la umma, elle est encouragée, tout va bien, et il y a des moments où il connaît des difficultés. La période culminante, c'est lorsque c'est sous le règne de Isa alayhi salam après l'extermination de Ya'juj wa Ma'juj. Et ensuite, il y a un déclin, et ce qui est magnifique, mashallah, c'est lorsque on analyse les grands signes de Qiyama après Isa alayhi salam, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 5 ou 6. On se rend compte que parmi les premiers grands signes de Qiyama, il y a cette brise qui reprend l'âme des croyants. C'est-à-dire que les choses horribles qui vont avoir lieu à la fin, comme les grands séismes ou la destruction de la Kaaba, ce genre de choses, les Ahlul Iman ne le verront jamais. Et ça nous tranquillise le cœur. La pierre noire qui est reprise, la Umma, Inch'Allah, ne la verra jamais, parce que ça va être à une époque où les gens, il n'y a plus de personnes qui ont la ilaha illallah dans leur cœur. Donc, pour commencer, on avait vu en introduction à peu près ce qu'on a expliqué. Hein. On ne va pas revenir sur les différents textes qui montrent qu'à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer. Il ne restera que les gens qui ne font que répéter la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mais qui n'ont déjà plus de pratique dans leur vie. Et ça, c'est... Ça rejoint un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam avait expliqué que les meilleures des personnes vont partir. Dire, au fur et à mesure que le temps passe, Allah azza wa jalla reprend les meilleurs. Les gens qui sont les plus pieux, les grands savants, ceux qui sont le plus proches d'Allah azza wa jalla, ils retournent vers Allah azza wa jalla. Et on se rend compte que il y a des salihin, des gens pieux qui sont décédés depuis des décennies, et on se rend compte qu'il n'y a personne pour les remplacer. On ne retrouve plus des gens avec un tel degré de foi, un tel degré de iman et un tel quota de ilm, de connaissances religieuses. Donc à la fin des temps, il restera des gens qui n'ont quasiment plus de pratique de la religion, mais ils ont encore la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans leur cœur. En petite parenthèse, hein, par rapport au déclin, on va dire, entre guillemets, le déclin de la religion à la fin des temps, parmi ces signes, ce qui est cité dans un livre connu de Tariq Makkah, une version de lequel il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Awwalu ma yurfa' al-rukn wal-Qur'an wa ru'ya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil manam. » Parmi les choses qui n'existeront plus à la fin des temps, c'est la possibilité de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Ça, c'est un signe magnifique, ça, pour un croyant, que d'avoir cet honneur de voir le prophète alayhi salatu wassalam en rêve. Mais à la fin des temps, les personnes qui... Ce qui veut dire que les gens qui vont rester n'auront plus ces qualités de iman pour pouvoir rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il me semble qu'une fois on avait expliqué un petit peu ça, que lorsqu'une personne voit le prophète alayhi salatu wassalam en rêve, donc déjà la personne doit connaître, hein, la description physique du prophète alayhi salatu wassalam, et la personne doit analyser quel message le prophète alayhi salatu wassalam lui fait passer. Bien sûr, si quelqu'un voit le prophète en rêve pour lui dire qu'il n'y a plus besoin de faire la salat, ou alors il n'y a plus besoin de faire telle chose, il s'est trompé complètement. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam, cependant, shaitan ne peut pas apparaître sous l'apparence physique du prophète alayhi salatu wassalam. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. Ça, c'est une chose sûre, mais les savants disent quand une personne pense voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il analyse comment était le prophète dans son rêve. D'accord? Maintenant, tout ce qui concerne la relation, c'est vrai que aimer le prophète alayhi salatu wa sallam, ça fait partie des piliers des shurut ash-shahadatain, des conditions des deux attestations de foi. Quand on atteste que Muhammad Rasulullah, parmi les conditions, c'est avoir un amour intense pour le prophète alayhi salatu wa sallam, un amour qui dépasse nos propres besoins. un amour qui dépasse ce que nous-mêmes nous voulons faire. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où on se dit, est-ce que j'obéis à la sunna du prophète sallam, ou je fais quelque chose qui correspond plus à ce qui est personnel, mes passions, mes shahawat, et ainsi de suite, le mu'min doit toujours faire passer le mode de vie du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam avant ses propres désirs. Maintenant, là aussi, dans l'amour que nous avons pour le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours le juste milieu, d'accord, sans non plus sombrer dans un roulou. C'est quoi le roulou? C'est l'exagération. Exemple d'exagération, lorsqu'on voit par exemple, il y a certains groupes, à la réunion il n'y a pas, alhamdoulilah, les personnes qui sont persuadées que le prophète alayhi salatu wassalam assiste à leur assemblée. Ça y a, même à l'île Maurice il y a un petit peu, ça vient plutôt du Pakistan, d'accord, et on les distingue quand ils viennent à Makkah, Madian, avec un turban de couleur bleue, d'accord. Donc selon eux, le prophète alayhi salatu wassalam est présent, hadir, nadir, comme il dit, et ainsi de suite. Donc ça c'est une exagération dans le muhabba avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le mu'min, subhanallah, il y a toujours un juste milieu. Aimer le prophète, c'est l'aimer, c'est apprendre sa sira, c'est apprendre sa sunna, apprendre son mode de vie. Et quand on dit apprendre son mode de vie, c'est pas uniquement sur l'apparence, c'est pas uniquement comment s'habiller, le fait d'avoir la barbe, machin, ce sont des sifat extérieurs, mais c'est également savoir comment le prophète alayhi salat wa sallam se comportait avec son épouse, avec ses enfants, dans les relations de travail, et ainsi de suite. On peut pas se dire être attaché à la sunna et puis être le plus grand escroc quand on est au travail. Ça, c'est des choses qui sont totalement incohérentes. Et l'incohérence n'est pas acceptée dans l'islam. On peut pas être incohérent. On peut pas pratiquer d'une certaine façon la religion. Et puis, dans d'autres domaines de la vie, on dit que non, ça, il n'y a pas besoin de la pratique religieuse. Iman, c'est quelque chose qui est shamil, qui est complet. Puis également, très souvent, on entend, subhanallah, beaucoup de gens qui parlent d'ittiba, mettre en pratique la sunna, mais on veut bien, on aimerait bien suivre ce discours, mais après, si dans la religion, on amène des pratiques que le prophète n'a jamais fait. Il y a des fois où il y a des personnes qui ont des pratiques, d'accord, certaines pratiques, je ne vais pas donner des détails, mais si on pose une question à un savant, un alim ou un mufti, il dit, mais est-ce qu'à un moment donné, le prophète alayhi salatu wassalam a mis en pratique cette action? Et il va vous éplucher la sira depuis Iqra bismi rabbika alladhi khalaq jusqu'au dernier verset, même à travers l'histoire des quatre califes, dit que non, il ne l'a jamais fait. Maintenant, une petite question logique, avec le peu de connaissances que j'ai. Si on est autant attaché au mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu attestes que le prophète n'a jamais fait telle action, quel intérêt de le faire? Et il va dire que oui, mais tel personnage pieux l'a fait. Et bien, maintenant, il faut savoir, est-ce que tu suis le prophète ou les personnages pieux? Parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Parce que si ces personnes-là, ok, on va dire que c'est des gens qui avaient les qualités de la foi, mais si ils n'ont pas de rattache au prophète alayhi salatu wassalam, ça n'a aucun intérêt. Vous savez, un petit masla, on ne va pas aborder le sujet encore ce soir, un petit masla de ulum al-hadith. Ulum al-hadith, c'est les takhassus, les spécialités qu'on apprend dans le hadith, au-delà même de l'étude des textes. Il y a une science qui s'appelle al-jarh wa ta'dil, asma al-rijal, c'est-à-dire l'étude des chaînes de narration. C'est quelque chose qui est vraiment ajib, qui est spécifique à cette umma. Et il y a un masla concernant la narration des jeunes sahaba. Vous voyez, juste pour avoir une idée, comment est-ce que nos pieux prédécesseurs étaient extrêmement minutieux dans ce qu'ils rapportaient. Ils ont posé la question, quand il y a un jeune sahaba qui... On estime que lorsque le prophète alayhi salat wa sallam est décédé, il devait avoir 7 ans, 8 ans ou 9 ans. Et qu'il rapporte une parole du prophète. Est-ce qu'on le considère comme hadith ou comme mawquf? Mawquf, c'est-à-dire la citation d'un sahaba sans qu'il ne le réfère à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste pour avoir une idée, pour qu'on comprenne comment les a'imma, Bukhari, Muslim et ainsi de suite, comment ils étaient extrêmement minutieux dans l'analyse des informations. C'est pas que n'importe qui vient dire n'importe quoi, que ça fait partie de la religion. Quand on dit que ça fait partie du din, c'est qu'on attribue cette action aux ordres d'Allah et de son prophète. C'est un amana, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Je ne peux pas dire aux gens que ça c'est quelque chose de bien, ça fait partie de la religion, alors que je n'ai aucune rattache ni avec les paroles d'Allah, ni avec les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça pour nous faire comprendre que aimer le prophète, c'est également respecter ses paroles. Autant on est consciencieux lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam dit que celui qui m'attribue quelque chose que je n'ai pas dit, falyatabawwa maq'adahu minan nar, que la personne prépare dès maintenant sa place dans le jahannam, nasallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un invente un hadith, je veux dire, si quelqu'un dit le prophète m'a dit telle chose, il invente un hadith qu'il attribue au prophète, une mise en garde est sévère. Maintenant, qu'on réfléchisse également lorsqu'on va apporter des choses dans la religion. Et on va demander aux gens de pratiquer la religion de cette façon, tout en sachant pertinemment que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'avait jamais fait. on peut se poser les questions. Surtout quand on a un rôle de leader et que c'est nous qui disons aux gens, faites pratiquer de telle façon, je prends sur moi. Je prends la garantie, je prends la responsabilité. Il faut bien vérifier ses sources. Parce que le din, la transmission du din, c'est la chose qui a le plus de valeur pour Allah Azza wa Jal. C'est le travail des Anbiya alayhi salatu wa salam qui est repris ensuite par, comme Rachid nous dit, par les ulama. Donc, à la fin des temps, les gens ne verront plus le prophète alayhi salatu wa salam en rêve. Alors, premier vraiment, on va dire, grand signe qui sera visible par tout le monde, ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi, Ad-Dukhan. Il me semble qu'on avait juste cité le titre la dernière fois. On est obligé de jongler entre les livres. Vous savez, il n'y a pas un programme qui est aussi, j'allais dire pénible, aussi difficile à préparer que les signes de Qiyam. Parce que là, ça touche à Aqidah. Et on ne peut pas se permettre un décalage. Parce que ça concerne les croyances. Il y a des fois où les livres ne sont pas suffisants. Il faut jongler en différents kutub pour trouver vraiment les meilleures références et les citations les plus sûres. Alhamdulillah, bi'idhnillah, depuis 2 ans, on a eu un livre qui est vraiment magnifique. Bi'idhnillah. Donc là-dessus, on peut se baser. Ad-Dukhan, à la fin des temps, donc après Isa alayhi salam, on explique en gros et puis on va voir les détails. Dans le surat Ad-Dukhan, justement, qui porte son nom, verset 10-13, Allah Azza wa Jal dit « Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin ». Le problème, c'est que je n'ai pas prévu la traduction du verset, mais qui dit en ce sens de « Faites attention que lorsque du ciel viendra, donc une fumée ». Yarshan nas hadha adhabun alim. Et en commentaire, les mufassirin rahimahumullah expliquent que c'est un signe qui interviendra à la fin des temps, après les grands signes de Qiyama et le dernier des grands signes de Isa alayhi salam, une fumée qui va apparaître et qui va être envahissante. Et fumée qui va gêner les mu'mines et qui va gêner les kuffars, mais de différentes façons. Alors, les versions. Hadith de Hudhaifa ibn Usayd al-Ghifari radiallahu anhu, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que parmi l'an taqoum as-sa'a, l'an taqoum, le qiyama n'aura lieu hatta taraw qablaha 10 ayat. La fin du monde n'aura pas lieu tant que vous ne verrez pas 10 signes. Et parmi ces 10 signes, le prophète alayhi salatu wassalam a cité ad-dukhan, une fumée qui va envahir ce dunya. Hadith de Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daoud et de Tirmidhi. Hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Badirul a'mali sitta » Empressez-vous d'accomplir des bonnes actions avant 6 signes. Et parmi ces signes, le soleil, on mélange les mots, qui se lèvera à l'ouest, et ad-dukhan, la fumée. Donc, ce hadith est cité, ce signe est cité dans 2 hadiths différents. Autre hadith de Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, et là, il y a un peu plus de détails. Avant la fin des temps, apparaîtra sahabatun sauda, un nuage de couleur noire, obscure. فَلَا تَزَالُ تَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ. Ce nuage va monter aux cieux. وَتَنْتَشِرُ. Et il va s'étendre. Normalement, un nuage, ça ne s'étend pas. D'accord? C'est un nuage, c'est comme une fumée qui va s'étendre حَتَّى تَمْتَلِي السَّمَاءِ jusqu'à ce que le ciel sera complètement noirci. On ne parle pas d'une éclipse. On ne parle pas d'une éclipse. Parce que tout va démarrer d'une fumée qui sera semblable à un nuage et qui va monter. Et les gens vont voir cette fumée prendre de la hauteur jusqu'à remplir le ciel. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ أَيُّهَا النَّاسِ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا. Jusqu'à ce que certaines personnes vont affirmer que l'ordre d'Allah est arrivé. C'est-à-dire que le qiyama a lieu. Cette fumée, selon les hadiths, il dit... Là, on passe à un autre hadith al-Tabarani, hadith de Hudhaifa radiallahu anhu. Oui, détail important sur le plan géographique. Dukhanan yamla'u ma bayna al-mashriq wa al-maghrib. C'est pas une fumée qui sera visible uniquement à Mecca ou à Medina ou à la terre de Cham. Non. De l'Occident à l'Orient, c'est-à-dire l'humanité, toutes les civilisations, tous les pays, toutes les populations vont voir cette fumée. Yamkuthu fil ardi. Et cette fumée va persister combien de temps? 40 jours. Pendant 40 jours, cette fumée va rester dans ce dunya. fayusibuhu, et quel sera l'effet de cette fumée? Le croyant sera légèrement importuné par cette fumée, comme si quelqu'un est malade, ça fait tousser, mais pas plus. Wa ammal kafir, mais pour le kafir, fayakun bimanzilati sukran, sera comme une personne qui devient ivre. C'est-à-dire, cette fumée va les perturber, et ça va entrer partout. Il dit même que dans les oreilles, dans les yeux, subhanallah, de le hadith Tabrani, il dit que c'est quelque chose qui va être nuisible pour ceux qui n'ont pas la ilaha illallah de leur cœur, mais les croyants, ceux qui ont encore un peu de iman de leur cœur, ça ne leur affectera pas beaucoup, mais ils vont voir là un signe d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est un signe qui aura lieu à la fin des temps. Deuxième signe qui aura lieu après Isa alayhi salam, et là on passe dans quelque chose qui est plus dramatique, raf'ul Qur'an. Le Qur'an qui sera repris par Allah Azza wa Jal. Parmi les khususiyah, parmi les spécificités de cette umma, c'est qu'Allah Azza wa Jal a pris l'engagement de protéger le Qur'an. Chose qui n'existait pas dans la révélation de Taurat, Injil, Zabur et de le Suhuf et dans les autres livrets qu'Allah avait révélés aux prophètes. On expliquait ça aux élèves, les lycéens qui font des révisions de la Sirah. On expliquait comment est-ce que notre Seigneur nous a gratifié par le biais de la révélation. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam recevait la révélation, le prophète avait auprès de lui des sahaba, des scribes qui écrivaient les versets. Deuxièmement, notre prophète alayhi salat wa salam a eu, bien sûr, comme on a dit, la garantie que les paroles d'Allah seront préservées. Notre prophète alayhi salat wa salam, troisièmement, a eu la garantie qu'il n'oubliera pas le Coran. Que même si il y a des fois où il y avait quelques versets qui étaient révélés. Par exemple, Inna a'tainaka al-kawthar, c'est deux lignes et demie. Mais quand il y avait des pages, des chapitres et des hizb entiers, des longs passages, même ça, notre prophète alayhi salat wa salam, il n'y avait aucun risque qu'il oublie. Et au début, le prophète alayhi salat wa salam répétait les paroles révélées par l'ange Jibril, de crainte de les oublier. Imaginez que je parle à Rachid, je vais te réciter un texte et tu vas l'écouter et le transmettre à 100 000 personnes. Et je le lis une seule fois. La personne va se dire qu'à un moment donné, je vais oublier des termes. Donc le prophète salam répétait. Et là, Allah Rabbul Izzah a révélé, « La tuharrik bihi lisanaka » لِتَعْجَلَبِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. De ce verset, Allah Azza wa Jal rassure le prophète alayhi salatu wasalam, en ce sens, j'ai pas la traduction sous les yeux, qu'il n'y a pas besoin qu'il se précipite pour répéter, en ce sens, les versets, parce que c'est à nous de le faire, c'est à nous de le garder, de le préserver. Ce qui veut dire que ce Qur'an, du moment où il est révélé du Lawh Mahfouz par le biais de Jibril alayhi salam, prophète alayhi salatu wasalam, il est immédiatement ancré dans le cœur du prophète alayhi salatu wasalam. Et quatrième spécificité, quand on dit le prophète n'oublie pas le Coran tant qu'il ne l'a pas propagé aux gens, aux sahaba, et tant que le sahaba n'avait pas mis par écrit. Maintenant, on va dire que oui, il y a eu une fois où le prophète sallam, il s'était trompé dans la salah par rapport à un verset, il avait oublié. Les ulama disent que oui, mais hadha ba'da at-tablir, après qu'il est révélé, après qu'il est propagé aux sahaba. C'est-à-dire que le Coran existait après. Les Coran étaient mis déjà à l'écrit et les sahaba le mémorisaient déjà. Quatrième donc, khususiyya, quatrième spécificité, le hifz, la mémorisation. Chose qui n'existait pas pour le Taurat, Injil, Zabur ou pour les autres livrets. La possibilité dès l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui est des sahaba, qui mémorisent le Coran. Même Isa alayhi salam, ses disciples ne mémorisaient pas l'intégralité du Injil, de la Bible. Et il y avait un grand nombre de sahaba qui mémorisaient le Coran. D'ailleurs, et le prophète était attaché, aimé, ces gens. D'ailleurs, il y avait une bataille. Si le nom de la bataille me revient, ou si quelqu'un l'a en tête, où il y avait beaucoup de sahaba qui avaient été tués. Banu Mustaliq, je crois. 70 hafez, mais je veux le nom de la bataille. Khair, Inch'Allah. Dans cet événement, il y a eu des hufaz dans le Coran qui avaient été tués, et le prophète alayhi salatu wasalam était très attristé. Mais il y avait encore, alhamdulillah, des gens qui mémorisaient le Coran. Autre spécificité du Coran, qui n'y a pas eu pour les autres livres, c'est après le décès du prophète alayhi salatu wasalam, il y a eu des compagnons qui avaient, mashallah, qui ont pris cette initiative de réunir le Coran. Et qui était le premier à le faire? Abu Bakr al-Siddiq. Beaucoup de gens pensent que c'est Umar qui a l'initiative. Umar l'a fait de façon, on va dire, un peu plus approfondie. Mais celui qui a eu l'initiative, qui a pris l'initiative de le faire et qui l'a fait en premier, c'était Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, parce que les Hizb étaient gardés par différentes tribus, différentes familles. On savait que, je donne un exemple, hein, soit Al-Baqara c'est avec Salih, soit Al-Imran c'est avec Hudhayfa et ainsi de suite. Donc Abu Bakr l'avait réuni et Umar radiallahu anhu a continué ce travail de Jam' al-Qur'an jusqu'à ce qu'après il l'avait recopié, jusqu'à après, alhamdoulilah, il y a eu l'imprimerie et ainsi de suite. Et mashallah, et au fur et à mesure, le Qur'an était écrit de façon identique, mais plus rassurant encore, le Qur'an était transmis de poitrine à poitrine par le biais du Hifz. Et ça, ça fait partie des miracles. Là, on a dit les spécificités de cette révélation. Maintenant, les khususiyat du Qur'an, le caractère miraculeux du Qur'an, parmi les caractères miraculeux du Qur'an, la facilité pour le mémoriser. Si quelqu'un devait prendre des poèmes en arabe et le mémoriser, je vous assure que la personne aurait des difficultés. Mais le Coran, subhanallah, Allah Rabbul Izzah a révélé, ça c'est kalamullah, la parole d'Allah entre dans le cœur du croyant, bi'idhnillahi azza wa jal, avec grande facilité. Et si on compte uniquement dans ce majlis, on a combien de personnes qui, mashallah, mémorisent le Coran? Il y en a au moins 5 ou 6, alhamdulillah. Mais non, mais il y en a qui ont un petit peu oublié, hein, qui sont pas très, très, très yad, comme on dit. Mais ça fait partie du miracle du Coran. Qu'il y a des fois même où on a l'impression d'avoir un petit peu oublié, vous révisez 10 minutes, 15 minutes, vous êtes prêt à monter sur le Moussala pour être imam et officier, et vous pouvez le lire, mashallah, en faisant quasiment aucune faute. Ça, c'est quelque chose de ajib, ça. Quelqu'un qui a mémorisé le Coran à l'âge de 15 ans, ben à l'âge de 50 ans, 55 ans, il est encore capable de lire le Coran et officier devant des centaines de personnes et lire de façon parfaite sans se tromper. C'est vraiment quelque chose de spécifique au Coran, subhanallah. Et une petite parenthèse, il y a un grand mufassir qui s'appelait, parce que les grands mufassirs sont décédés, Al-Fakhr al-Razi, rahimahullah. Il écrit un tafsir, mais qui est tellement compliqué qu'on y a recours en dernier lieu quand on n'a pas de réponse d'Ibn Kathir, dans Qurtubi, dans les différents tafsirs qu'on utilise. Là, on a recours, mais un linguistique qui est très compliqué. Al-Tafsir al-Kabir, Al-Fakhr al-Razi, rahimahullah, il parle de la maladie de la mémoire. Bon, c'est pas un contemporain, mais ça date de quelques siècles, mais c'est pas à l'époque d'Ibn Kathir et tout. Il parle de la maladie de la mémoire. Je pense qu'à notre époque, par analogie, on pourrait parler de Alzheimer, nasallahu al-afiyah. Il dit que la personne à qui Allah a donné le Coran, hifdhan, qui mémorise le Coran, et qui continue à réviser le Coran jusqu'à un âge avancé, bifadlillahi ta'ala, cette personne ne sera jamais atteinte de perte de mémoire. Parce que, subhanallah, son cerveau sera en permanence occupé à travailler, à réviser le Coran en distinguant les passages qui font partie de tel juz, ainsi de suite, que, subhanallah, il y aura toujours une activité intellectuelle et par le baraka, par la lumière qu'il y a de ce Coran, cette personne-là ne sera pas atteinte par la maladie, inshallah, de l'oubli. Donc, tout ce qu'on vient d'expliquer sur la beauté, et là, on parle pas de la beauté du Coran, hein, le fait que le Coran reste par la promesse d'Allah Azza wa Jal, ben, cette promesse, c'est tant qu'il y aura des gens qui vont continuer à dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah de ce dunya, et tant qu'il y aura des gens encore dignes de porter le Coran. Mais à la fin des temps, ces personnes-là vont disparaître et le Coran va être repris par Allah Azza wa Jal. Je pense qu'on était un petit peu long, 38 minutes, encore 2 minutes. On va peut-être juste introduire le sujet. Hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, de lequel le prophète alayhi salatu wa sallam dit « Inna hadha al-Qur'an alladhi bayna adhurikum yushak wa yurfa'a » Alors, c'est la citation de Ibn Mas'ud. Il dit, le Coran qui est entre vos mains viendra un jour où ce Coran sera repris, il remontera aux cieux. On a demandé à Ibn Mas'ud, wa kayfa yurfa' wa qad athbatahu Allah fi qulubina wa athbatnahu fi masahifina. Il a dit, oh Ibn Mas'ud, comment est-ce possible que ce Coran sera repris alors qu'Allah Azza wa Jal l'a, on va dire, l'a gravé, hein, nous a permis de le mémoriser, de le garder par la mémorisation, mais également par l'écriture. Et là, Ibn Mas'ud a dit, yusra alayhi fi layla, en une nuit, Allah Azza wa Jal va reprendre le Coran. Le Coran a été révélé sur une période de combien d'années? 23 années. L'intégralité de la prophétie depuis Iqra jusqu'au dernier jour de Al-Madina Al-Munawwar. En une nuit, Allah Azza wa Jal reprendra le Coran. Fayadhhabu ma fi qulubikum. Ce qui veut dire qu'il y aura des gens encore à cette époque qui seront des Hufaz al-Qur'an. Mais ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus un seul verset de leur cœur. Nasallallahu alayhi wa sallam. فَيَذْهَبُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَمَا فِي مَصَاحِفِكُمْ. Ce qu'il y a de vos cœurs vont disparaître et ce qu'il y a de vos livrets, c'est-à-dire de le Coran qu'on lit, de le livre également, va être repris par Allah Azza wa Jal. Une autre version d'At-Tabarani, de laquelle il dit وَيُصْبِحُ النَّاسُ فُقَرَا كَالْبَهَائِمْ. Les gens vont se lever un matin pauvres comme des bêtes, comme des animaux. Bahaim. Pourquoi comme des animaux? Parce qu'ils n'ont plus la parole d'Allah. Ils vont, il y a des gens qui n'auront plus, on pourrait dire, plus de raison de vivre. Quel intérêt pour une umma de laquelle il n'y a plus le lien avec Allah, il n'y a plus les paroles d'Allah Azza wa Jal. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam est décédé, il y avait, si je ne me trompe pas, une des épouses, soit c'était une des épouses ou l'épouse d'un sahaba qui pleurait abondamment. Et on avait dit à cette personne que certes Allah a repris son prophète, mais c'est le taqdir, c'est la décision d'Allah, c'est comme ça qu'Allah a organisé la création. Cette dame a dit que je ne pleure pas pour la disparition. Maintenant, je ne suis plus au stade de pleurer pour la disparition du prophète alayhi salat wa salam, mais je pleure parce que le lien entre Allah et la création s'est terminé. Avec le décès du prophète alayhi salat wa salam, Allahu Akbar, c'est la fin des rusul, c'est la fin des nubuwat, des prophéties, donc la fin des wahi. Jamais plus Allah Azza wa Jal ne va communiquer avec la umma, ne va révéler quelques versets ou une parole à la umma. Donc une umma qui se retrouve sans Coran, c'est une umma qui est perdue. Qui est perdue. C'est pour ça que le prophète m'a dit, ce hadith qu'on a dû citer au moins 50 fois, mais ce sera peut-être la 51e fois, « Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitabullahi wa sunnati. Oh ma umma, je vous ai laissé deux choses, accrochez-vous à ces deux choses, vous ne serez jamais égaré, le livre d'Allah et ma sunna. » C'est-à-dire que les muhaddithin disent que vous ne serez jamais égaré, c'est-à-dire même dans les périodes où il y aura le plus de péchés et de fitna, même à l'époque de Dajjal, il nous a été demandé de nous raccrocher à quelle sourate? Al-Kahf. C'est-à-dire même à l'époque où il y aura le plus de corruption de ce dunya, le mu'min qui va s'accrocher au Coran, c'est le musulman, celui, c'est ce croyant-là qui va être protégé des fitna. C'est la meilleure des protections. Maintenant, quand cette meilleure des protections est reprise par Allah, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. C'est une umma qui n'a plus rien et c'est une umma qui va s'éteindre. C'est une umma qui va s'éteindre et le adab d'Allah va tomber maintenant sur ce dunya pour l'extermination de al-makhlouqat, de tout ce qu'on appelle al-alamin, kullu ma siwallah. Quand le Qiyama a lieu, c'est toutes les créatures d'Allah qui seront détruites, c'est-à-dire tout ce qui existe en dehors, le thème exister, subhanallah, n'est pas adapté par Allah, tout ce qu'il y a en dehors d'Allah, azza wa jal. Donc, la umma va être privée du Qur'an à la fin des temps. Mais du coup, on peut simplifier, hein. Si on ne simplifie pas, à chaque fois on va s'étaler et puis on ne finira jamais. On essaie d'avancer et terminer. La taqoumu sa'a. حتى يرفع القرآن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. Donc il y a plein de versions, des fois on se répète, mais on essaie de rechercher le maximum de textes avec des chaînes de narration différentes, avec des références différentes, parce que c'est du aqida et on doit faire attention que tout ce qu'on raconte, hein, tout ce qu'on rapporte, c'est vraiment authentifié. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment nécessité de reprendre à chaque fois les mêmes versions, mais encore, la narration de Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, de laquelle il dit que le Qiyama n'aura pas lieu tant que le Coran ne retournera pas. Mais là, s'il y a une précision qui nous intéresse, min haythu ja'a. D'où il est venu, le Coran va revenir. C'est pas que le Coran disparaît. Le Coran ne disparaît pas, c'est kalamullah. C'est pas qu'il n'y a plus de Coran et c'est fini, il n'y a plus de trace. Là, wallah. Le jour de Qiyama, les Anbiya alayhi salatu wa salam vont lire le Coran d'une voix magnifique. D'accord? Le Coran ne disparaît pas, il retourne min haythu ja'a, d'où il est venu le Coran va retourner et selon cette version il va même retourner au prix du arsh d'Allah Azza wa Jal. Il veut dire min ka kharajtu, cette portion de narration là par contre rapportée par Kanzul Ummal, j'ai pas garanti que c'est sahih, ça s'est vérifié. Il dit que oh Allah, je viens de toi, wa ilayka a'ud, et auprès de toi je reviens. Utla fala yu'malu bi. On me lit, mais plus personne ne me met en pratique. Et c'est à ce moment-là donc que le Coran va remonter. Cette portion, elle n'est pas, il y a besoin d'être authentifié, mais le sens, le ma'na, on le conçoit. C'est-à-dire que le Coran va retourner auprès d'Allah, Azza wa Jal, parce qu'il est maintenant dans une umma qui ne pratique plus, qui ont juste la ilaha illallah de leur cœur. Mais comme on l'a vu en introduction, ils ne connaissent plus c'est quoi la salah, c'est quoi la zakat, et ainsi de suite. Les gens ne mettent plus rien en pratique. Qu'Allah, Rabbul Izza, nous protège de connaître ces moments-là, hein, ces moments difficiles où la umma sera privée de la parole d'Allah, Azza wa Jal, et c'est juste après qu'aura lieu le arrihul at-tayyiba, certains disent tayyiba ou layyina, ça on fera la prochaine fois. Alhamdulillah, on a pu faire quand même deux signes, c'est pas mal. La prochaine fois, on va voir le vent, cette brise qui va reprendre l'âme des croyants, afin que les croyants ne voient pas ce qui va se passer après, qui sera horrible, la destruction de la Kaaba, les trois grands séismes, également la bête ad-daba, la bête qui va sortir, et le soleil qui se lèvera à l'ouest, et ensuite la destruction de ce dunya. Qu'Allah t'en tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager à nos mères et à nos sœurs. Ma tawfiq illa billah. Alhamdulillah, nous accueillons jour après jour les hujjaj hein, qui reviennent. Alhamdulillah. Grand ni'ma qu'on a eu. Alhamdulillah, pas mal de personnes qui ont été au hajj cette année. Qu'Allah Rabbul Izzah accepte le pèlerinage, accepte le hajj. Et nous devons toujours avoir cet espoir, hein, même si on n'a jamais fait le pèlerinage, de pouvoir y aller. Renouveler l'intention. Hein. Il ne faut pas que quelqu'un se dise que ben, je l'ai fait une fois, ben, j'ai fait mon devoir. Certes, le devoir c'est une fois, mais le cœur du croyant doit vraiment être attaché au lieu. Ça doit être, il faut que ce soit une grande histoire d'amour entre nous et Mecca et Médine. Ça c'est très important. Que dans notre cœur, c'est notre tamanna. Hein. Moi je pense que si quelqu'un a un peu de moyens, un peu d'argent et tout, plutôt que parfois de s'éparpiller, aller à droite, à gauche, les vacances, et le droit de la famille, il n'y a pas le moindre doute, hein, c'est important. Mais si on a la possibilité d'avoir un peu d'argent, mettre un peu d'argent de côté, qu'on le fasse avec le niya, d'aller soit au hajj, ou alors si on a déjà été au hajj, à l'umra, ça c'est important. De cette façon-ci, les économies qu'on est en train de faire, hein, ce sera un pas qu'on est en train de faire vers Allah, et il y aura inshallah la baraka, la bénédiction dans l'argent qu'on essaie de garder. Parce que le croyant qui se retrouve face à la Kaaba, c'est quelque chose de ajib, c'est quelque chose de magnifique. Et le croyant qui lève ses mains le jour de Arafat, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui ne peut pas être décrit. Et certains savants, subhanallah, ils donnent une explication magnifique. Vous savez que dans les périodes de l'année où Allah Azza wa Jal pardonne les péchés, d'accord, par exemple d'un Jum'a à l'autre, ou alors en faisant les ablutions d'une prière à l'autre, ou alors la nuit du destin, les péchés sont pardonnés, ainsi de suite, ou en jeûnant, subhanallah, Ashura, ou en jeûnant le jour de Arafat, les péchés sont pardonnés. Il dit que les péchés qui sont pardonnés, ce sont as-sagha'ir, les petits péchés. Maintenant, les péchés, les kaba'ir, nécessitent un tawbatun nasuha. Et quand on dit repentir sincère, il y a des conditions. Et parmi ces conditions, vous savez, il y a le fait de regretter le péché et de faire l'intention ferme de ne plus jamais le recommencer. Il dit qu'il y a des fois où la personne, même hein, dans la nuit du destin, Laylatul Qadr, il essaie de se concentrer, il essaie de vraiment ressentir ce tawbah, mais il ne le ressent pas. Et si on n'arrive pas à le ressentir, c'est une condition qui n'est pas remplie. Tant qu'on n'arrive pas à passer ce cap, c'est-à-dire de regretter le péché, ça il y a un travail spirituel très fort à faire, ça, regretter le péché. C'est-à-dire arriver à un stade où je finis par détester le péché que j'ai fait et que j'ai profondément honte de mes actes auprès d'Allah Azza wa Jal. Il y a un travail spirituel à faire. C'est-à-dire que ça, on ne trompe pas le cœur. On peut tromper les membres, d'accord, mais le cœur, c'est quelque chose de sincère. Soit on regrette, soit on ne regrette pas. On ne peut pas dire au cœur, fais comme si tu regrettes. Non, soit il regrette, soit il ne regrette pas. Il dit qu'il y a des fois, les conditions ne sont pas réunies. Il manque l'étincelle pour que le cœur, je pourrais dire, s'emballe, s'enflamme. Et vraiment, il y a une poussée, une ébullition de iman dedans et qu'on finit par... Comment est-ce qu'on arrive à regretter, détester nos péchés? C'est quand vraiment on ressent la grandeur d'Allah dans notre cœur. Quand on ressent la grandeur d'Allah, on éprouve cette haya, cette honte d'avoir désobéi à Allah Azza wa Jal. Et c'est là qu'on se rend compte que ce que j'ai fait, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, c'est horrible, c'est inacceptable. Comment est-ce que j'ai pu faire telle chose? Connaissant la grandeur d'Allah, sa générosité, sa clémence, comment Allah nous aime, comment Allah nous a gratifié de bienfaits, et en même temps en développant la crainte d'Allah, comment Allah peut sévir dans le cas où la personne ne désobéit, ne demande pas pardon. C'est donc, quand on a intégré cette grandeur d'Allah, cet amour pour Allah, cette crainte d'Allah, c'est là qu'on peut arriver à ce stade où on va regretter le péché accompli. Il dit qu'il y a des fois où l'étincelle a lieu, des fois il n'a pas lieu. Il dit, mais quand un croyant, dans 90% des cas, mashallah, quand quelqu'un est à Arafat, il y a une telle rahma qui descend, il y a une telle bénédiction qui descend et qui va, mashallah, qui va englober toutes les personnes présentes de la plaine de Arafat, mashallah, que automatiquement il y aura quelque chose qui va se produire dans le cœur. Il y aura, le cœur va, subhanallah, va s'emballer. Et là, il y aura, on va atteindre un tel degré de spiritualité que on va réellement regretter le péché. La personne va réellement prendre l'initiative, la résolution ferme de ne plus retourner vers le péché, vers l'erreur. Et là, Bouchra, ce sont là de bonnes nouvelles. Parce que quand la personne regrette sincèrement et qu'il sait, il a pris la décision ferme de ne plus retourner vers le péché, il peut, il doit avoir la conviction que maintenant le péché a été pardonné. Même si c'était le zina, même si c'était l'adultère, même si c'était les choses les plus horribles qu'on peut imaginer. Parce que lorsqu'Allah décide de pardonner, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne l'intégralité des péchés. Et concernant le Wukuf Arafat, il y a un hadith qui est magnifique. Et juste pour ça, on doit économiser 5000 euros, 6000. Quand on finit d'arriver, 12000. Non, non, ça monte d'année en année, de 1000 euros tous les ans, d'accord? On doit, machin, mettre un peu d'argent de côté quand on voit le hadith qui dit que même, en ce sens, mes serviteurs, même si vos péchés sont aussi nombreux que les grains de sable ou que l'écume des mers ou que les gouttes de pluie, il y avait une troisième métaphore, Allah est capable de tout pardonner. C'est magnifique ça, de savoir qu'une vie de péché peut être entièrement pardonnée si on est sincère, on est présent à Arafat. Ça doit nous mettre du baume au cœur et ça doit nous motiver pour aller vers cet endroit. Donc on fait le niyyah, là on démarre une nouvelle année, bientôt Muharram. On essaie de on demande à Allah Azza wa Jal tous les jours, Allah appelle-moi vers ta Baytullah al-Haram. Invite-moi pour faire le hajj l'année prochaine, ya Allah, et on fait les efforts qui viennent avec. Également, les personnes qui organisent, mashallah, ils ont beaucoup de mérite. Parce que d'année en année, l'organisation devient de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. Il y a tellement de règlements qui sont faits pour protéger le pèlerin à la base. Mais c'est les organisateurs qui payent un peu les frais. Parce qu'il y a des mesures vraiment drastiques qui sont appliquées. Et je disais ça l'autre fois à certains organisateurs, que pour continuer à organiser, soit il faut gagner beaucoup d'argent, ce qui n'est pas forcément le cas, où il faut vraiment aimer ce travail. Il faut vraiment aimer ce travail, parce que je crains que d'année en année, si ça continue à être aussi compliqué d'organiser, moi je connais déjà certaines personnes qui ne sont plus trop motivées, parce qu'ils disent que c'est vraiment difficile. Donc, mashallah, quand on va au hajj et tout, il faut être patient, parce que il y a des fois où des choses ne sont pas parfaites, mais il faut savoir que cette organisation, elle est extrêmement complexe. Mais il y a beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses à gagner. Donc, on fait tous l'intention, inshallah, que tout ce petit groupe, l'année prochaine, nous au hajj ensemble, inshallah. Dites amin. Allahumma amin. Allahumma fiqna. Taqabbal minna innaka as-sami' al-'alim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Jazakumullahu khairan.